Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Saint-Père préoccupé par le chômage des jeunes en Europe, nous sommes tombés dans le péché d'idolâtrie, affirme-t-il dans une longue interview. Le souverain pontife a répondu sans embâge à plus d'une vingtaine de questions. Nous en parlerons dès le début de ce magazine. Le pape François suit de près les développements de la situation en Irak. À Mossoul, les églises, les écoles et autres structures catholiques sont ouvertes aux réfugiés en esprit de collaboration entre fidèles de plusieurs religions. Alors que des milliers de volontaires sont prêts à défendre leur pays face à l'offensive des djihadistes. Dans ce magazine, vous entendrez également Mgr Elias Chakour. Il déplore l'expulsion de jeunes chrétiens d'un village de Galilée. Et ne manquez pas notre reportage au siège de la communauté de Sant'Egidio qui se prépare à accueillir le pape François ce dimanche. Le pape François a accordé une longue interview à un journal catalan, l'Avanguardia, l'occasion pour lui de critiquer une nouvelle fois le modèle économique actuel motivé par la volonté de posséder plus et qui, paradoxalement, alimente une culture de l'exclusion qui touche particulièrement les jeunes et les personnes âgées. Cela compromet, selon lui, l'avenir des peuples. Toute une génération est condamnée par le maintien d'un système économique qui n'est déjà plus soutenable. Dans cette même interview parue ce vendredi, le pape François n'élude pas les questions plus personnelle. Marie Duhamel.
Quand j'ai eu 75 ans, j'ai présenté ma démission à Benoît XVI. Le pape confirme avoir une chambre réservée dans une maison de retraite pour prêtres en Argentine. C'était bien sûr avant la renonciation, le conclave et son élection. Vous avez changé beaucoup de choses, des projets. Le pape dit ne pas être un illuminé. Ce que je fais, c'est mettre en œuvre ce à quoi nous avons réfléchi lors des congrégations générales et, comme exigé alors, de me faire conseiller par des équipes extérieures au Vatican. François, un révolutionnaire? Non. Pour lui, la grande révolution est de connaître ses racines. Pour faire des vrais changements, il faut savoir d'où on vient, comment on s'appelle, quelle est sa religion et sa culture. Pape ou pasteur? Je ne joue pas au pape pasteur. Servir les gens est ancré au plus profond de moi. Mais je me sens pape, je fais les choses avec sérieux et respecte le protocole, même s'il reconnaît avoir à ce propos quelques difficultés. Quant à sa sécurité, à mon âge, je n'ai pas beaucoup à perdre. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme d'une bonne personne qui a fait du mieux qu'elle a pu. Cela me réconforte quand j'entends quelqu'un dire cela, explique le pape. Comment considérez-vous enfin la renonciation de Benoît XVI? Un geste très grand, je demanderai moi-même au Seigneur de m'illuminer lorsque le moment sera venu.
Dans ce très long entretien, le pape François s'attarde également sur son voyage en Terre Sainte, sur la rencontre de prière historique de dimanche dernier, mais aussi sur les relations des chrétiens avec les juifs. Marie Duhamel.
Il évoque en effet son voyage en Terre Sainte, un voyage précipité. Le mandat du président israélien s'achevait. Pourquoi est-ce si important pour un chrétien d'aller en Terre Sainte? Pour la révélation, c'est comme le ciel sur la terre. Un geste que le monde a retenu, l'accolade avec ses amis rabbins et musulmans devant le mur des Lamentations. Qui sait si cette amitié entre nous trois sera perçue comme un témoignage? Vous avez dit que dans chaque chrétien, il y a un juif. François corrige, il serait plus juste et sérieux de dire qu'on ne peut pas être un vrai chrétien si on ne reconnaît pas ses racines juives. Je crois que le dialogue interreligieux doit plonger dans la racine juive du christianisme et dans la floraison chrétienne du judaïsme. Je comprends que ce soit un défi, une patate chaude, dit-il, mais on peut le faire entre frères. Comment voyez-vous l'antisémitisme? Je ne saurais l'expliquer, le pape le dénonce, il y a encore aujourd'hui des négationnistes de la Shoah, une folie. Vous avez pour projet d'ouvrir les archives vaticanes sur l'Holocauste, cela apportera beaucoup de lumière, confirme le pape. Ce qui me préoccupe, c'est la figure de Pie XII, explique-t-il. Le pauvre, ils ont tous tiré sur lui à boulet rouge. Or, François rappelle qu'il s'agit d'un grand défenseur des Juifs. Il les cacha dans les couvents et même dans la résidence d'été de Castel Gandolfo. Le pape avoue avoir une sorte d'urticaire existentielle quand il voit tout le monde s'en prendre à l'église et à Pie XII. Enfin, concernant la Terre Sainte, le pape salue le geste d'humilité du patriarche de Constantinople. Sa venue à Jérusalem et au Vatican fut un pas risqué, certains pourraient le lui reprocher, mais il a accompli ce geste nécessaire, car il n'est pas concevable que nous chrétiens soyons divisés, c'est un péché historique que nous devons réparer.
Dans cette même interview, le pape François constate que la persécution des chrétiens est plus forte qu'au cours des premiers siècles de l'Église. Il condamne le fondamentalisme religieux dont les chrétiens ne sont pas à l'abri, mais qui reste selon lui minoritaire. Enfin, il s'inquiète des mouvements indépendantistes qui se développent en Europe, comme en Écosse ou en Catalogne. Toute division, explique-t-il, me préoccupe. Une visite symbolique et attendue, celle du pape François à la communauté Sant'Egidio ce dimanche, dont le siège se trouve en plein cœur du quartier romain du Trastevere. Dans l'après-midi, le Saint-Père se rendra d'abord à la basilique Santa Maria in Trastevere. Il priera devant l'icône de la Madone de la Clémence, la plus ancienne représentation sur bois de Marie existante à Rome. Puis il écoutera plusieurs témoignages avant de s'adresser aux fidèles. Le pape François se rendra ensuite à pied au siège de la communauté située à côté de la basilique, où il rencontrera les responsables de la communauté, des évêques, prêtres et séminaristes, des malades et d'autres groupes de personnes. La communauté Sant'Egidio se prépare dans la joie à cet événement. Pour ce mouvement d'église qui a fait du service aux pauvres sa priorité, les paroles et les gestes du pape sonnent comme un vrai encouragement. Manuela Affigi a rencontré 3 volontaires de Sant'Egidio.
Mettre le pauvre, le malade et le marginalisé au centre de l'attention et de l'écoute, tout cela dans la gratuité, regarder l'autre avec le regard du Christ, le regarder comme un membre de sa famille, le considérer comme un frère, une aspiration présente dès le début de Sant'Egidio, c'est ce que nous explique Augusto, il est volontaire au sein de la communauté depuis 37 ans.
Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une faim plus grande, une faim d'amitié, de famille. Beaucoup deviennent pauvres quand ils n'ont plus de famille, plus de cercle familial. Et nous avons pensé que nous devrions être ce cercle familial, traiter ces nouveaux amis sans maison comme nos parents, apprendre leur nom, leur date d'anniversaire, fêter leur anniversaire, les accompagner à l'hôpital pour les visites, pour tout ce que chacun ferait pour sa propre famille.
Le service aux pauvres, ce charisme s'est diversifié au fil des années pour répondre aux exigences nouvelles qui se sont présentées avec le temps. Aide aux migrants et aux réfugiés, aux communautés roms, aux personnes handicapées et aux personnes âgées. L'apostolat d'Augusto est auprès des personnes sans domicile fixe.
Nous allons les visiter dans les gares. Quand nous les rencontrons, nous nous présentons. Ensuite, nous les invitons à venir à notre cantine où ils peuvent manger gratuitement. Et ensuite, nous cherchons à comprendre ce dont ils ont besoin. S'ils ont perdu leur travail, les aider à faire un CV. S'ils ont besoin de soins médicaux, trouver le moyen de leur rendre visite.
Paolo est dans la communauté depuis plus de 20 ans. Son service, il l'accomplit auprès des communautés roms, souvent marginalisées et méprisées. Et c'est en amis qu'il les visite, eux qui se trouvent aux périphéries des villes.
L'engagement de Sant'Egidio avec eux consiste à abattre les murs de séparation et aller physiquement chez eux pour connaître leur famille et participer aux événements de leur vie comme amis. En les fréquentant, on s'est rendu compte qu'ils avaient de gros problèmes de santé et on a pensé à un dispensaire qui puisse les accueillir et les orienter vers les services de santé publique pour les visites et la formation.
Francesca est-elle engagée depuis ses 15 ans? Elle s'occupe des écoles pour la paix, des écoles très spéciales, ouvertes à tous les enfants.
Les écoles de la paix sont des endroits où les enfants, italiens, étrangers, roms, se retrouvent ensemble pour étudier, mais pas seulement. Il y a tout un parcours d'éducation à la paix, à la cohabitation, à la solidarité. Et c'est très beau parce que les enfants, avec leur simplicité, sont les premiers à abattre les murs des préjugés. Ce sont des endroits où on apprend à vivre ensemble.
Ces écoles présentes dans le monde entier ont fait leurs preuves, notamment en Amérique du Sud, où elles représentent une alternative pour les enfants face à la tentation de la violence.
On peut dire que c'est une alternative. Dans certains quartiers de San Salvador, les maras sont presque disparus grâce à la présence des écoles de la paix.
Le monde change et le défi reste le même pour le croyant. Comment continuer à annoncer l'évangile? Sant'Egidio répond en accueillant les pauvres comme des frères, des pauvres qui, pour ses volontaires, sont devenus membres de leur famille à part entière.
La mia vita si è arricchita di tanta umanità.
Ma vie s'est enrichie de beaucoup d'humanité. Ces personnes m'ont accompagné dans ma vie. Ils étaient présents à mon mariage, au baptême de mes filles. Ils m'invitent à leurs fêtes. Ils font partie de ma vie.
Je me rappelle toujours quand Benoît XVI a visité la cantine pour les pauvres. Il a mangé avec eux et il leur a dit « Ici, on confond celui qui sert et celui qui est servi. » Au fond, c'est cela notre réalité.
In fondo, la nostra realtà è proprio questa.
Ni pauvres, ni roms, ni migrants, ni volontaires, ce dimanche, ce sera donc une seule et même famille qui attendra le pape, priera et se réjouira avec lui.
Un reportage réalisé par Manuela Affigi. Un prêtre français du 19e siècle sera prochainement béatifié. Ce vendredi matin, le pape François, autorisé la Congrégation pour la cause des saints, a publié un décret reconnaissant un miracle attribué à l'abbé Louis-Édouard Sestac, qui a œuvré dans le diocèse de Bayonne. Il a fondé la Congrégation des Servantes de Marie qui, à sa mort en 1868, comptait déjà plus de 900 membres et quelques 150 maisons, dont des écoles et des orphelinats. Cet autre décret ont été promulgué en présence du Saint-Père. L'un d'eux concerne un miracle attribué à une missionnaire italienne de la Consolata, sœur Irène Stefani, morte au Kenya en 1930 alors qu'elle assistait un malade atteint de la peste. Surnommée l'ange des pauvres, cette femme héroïque qui a connu la fatigue, les longues marches en forêt, le dur labeur, sera elle aussi prochainement béatifiée. En Galilée, les forces de police et des agents de l'administration des terres d'Israël ont expulsé mercredi des jeunes chrétiens de Biram. Ils vivaient dans des préfabriqués installés dans ce village maronite où il ne reste que des ruines. Deux jours plus tôt, à Ikrit, un village gréco-catholique melkite, lui aussi en ruine, des jeunes installés près de l'église avaient été arrêtés. Déjà en 1948, pendant la guerre israélo-arabe, l'armée israélienne avait expulsé leurs parents avant de bombarder ces villages. Aujourd'hui, ils ne peuvent y revenir que pour célébrer la messe dans l'église et enterrer leurs morts dans le cimetière, les deux seuls lieux qui ont échappé au bombardement. Pourtant, plusieurs décisions de la Cour suprême israélienne ont autorisé les habitants à rentrer chez eux, et ceci dès 1951. Monseigneur Elias Chakour, archevêque émérite de l'église gréco-melkite catholique de la Galilée et lui-même originaire de Biram, a été très blessé quand il a appris ces expulsions.
Tout homme qui voit ses enfants chassés de sa propre maison, il sent un sentiment de dégoût, un sentiment de faiblesse, une question. Pourquoi qu'avons-nous fait pour mériter d'être chassés des fois après des fois de notre propre maison?
Il y a eu plusieurs décisions de la Cour suprême qui les ont autorisés à rentrer chez eux. Et pourquoi, selon vous, l'État israélien ne respecte-t-il pas ces décisions?
Moi, je ne trouve aucune raison, sinon que le mouvement sioniste veut s'approprier toutes les terres de Palestine sans prendre garde aux chrétiens, musulmans ou autres. Vous êtes arabes, vous n'êtes pas titrés à posséder votre terre ancestrale.
L'État israélien avance des arguments de sécurité, mais est-ce que c'est seulement cela?
Ils avancent un seul argument, raison d'État, qui est une excuse extrêmement dangereuse et peut devenir très raciste, car malheureusement, un autre pays a utilisé le terme de Staat raison, raison d'État, pour massacrer nos frères juifs.
Est-ce que vous pensez donc qu'il y a vraiment une volonté de chasser les chrétiens
Je constate, ce n'est pas une imagination, c'est un constat quotidien. Presque toutes les semaines, nos églises sont salies par des phrases racistes de groupes juifs très fanatiques. Ce qui est étrange, c'est que les autorités n'arrivent jamais à mettre la main sur ces malfaiteurs. Nous sommes des citoyens d'Israël. Est-ce qu'ils veulent encourager les chrétiens à abandonner et à partir? Je ne sais pas, mais c'est possible. Toutefois, 75% des chrétiens palestiniens sont déjà ou bien des réfugiés ou des déportés ou des immigrés dans le grand monde occidental.
Et est-ce que vous avez de l'espoir pour que cette situation change?
Vous savez, ils ont détruit le village, mais les villageois sont encore vivants. Et tant qu'ils persistent à réclamer leurs droits, personne ne peut le leur nier. Sinon aujourd'hui, c'est demain. Sinon, c'est après-demain. Mais il faut que justice soit faite.
Monseigneur Elias Chacour, interrogé par Audrey Radondi. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a fait part de sa vive préoccupation devant l'aggravation de la situation en Irak, assurant que les structures de l'Église étaient ouvertes à tous les réfugiés intérieurs. Dans un communiqué, le cardinal Leonardo Sandri a exprimé sa proximité à l'égard du patriarche chaldéen Louis Sacco, qui depuis son élection a fait tant d'efforts pour soutenir coûte que coûte le dialogue et la réconciliation nationale. Suite à la prise de Mossoul par les djihadistes, le cardinal Sandri a assuré que les évêques chaldéens et syro-catholiques étaient, en ces heures tragiques, aux côtés de la population chrétienne et musulmane, contrainte à fuir les maisons et la ville pour pouvoir survivre. Dans la terre d'Abraham, qui s'est mise en route suivant la promesse de Dieu, on assiste, écrit-il, à un énième exode de centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants qui voient la promesse de stabilité et de vie détruite d'un seul coup. Un exode qui se passe dans des conditions dramatiques, alors que la Syrie est en guerre et que le Liban et la Jordanie sont submergés de réfugiés syriens. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales exprime aussi le soutien du pape François pour la population irakienne et il espère que la prière pour la paix qui s'est tenue au Vatican le dimanche de la Pentecôte ouvre un nouvel horizon de paix en Irak, en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. La tentation de la violence, les religions entre guerre et réconciliation, ce thème toujours actuel, sera débattu lundi et mardi à Sarajevo, sous les auspices du réseau international Oasis. Les travaux seront ouverts par l'archevêque catholique de la ville et par le chef de la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine. Les rencontres précédentes s'étaient tenues à Milan, Tunis, Venise, Beyrouth, Amman et le Caire, Cyprien Viette.
Sarajevo n'est pas un lieu comme un autre. Point de départ de la Grande Guerre, cette ville garde aussi les traces d'un récent conflit survenu il y a 20 ans à peine et nourri de références ethniques et religieuses. Les participants entendent relire les conséquences de la Première Guerre mondiale qui a marqué un tournant historique non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde musulman avec la fin du califat ottoman, la naissance de l'islam politique et du nationalisme arabe, la centralité stratégique du pétrole et les premiers génocides. Au cours des dernières décennies, la guerre classique a été remplacée progressivement par le terrorisme, tandis que la violence religieuse s'est imposée sur le devant de la scène, avec des conséquences graves pour les minorités, surtout au Proche-Orient et en Afrique. Par voie de conséquence, le retour de la violence à connotation religieuse alimente en Occident une certaine défiance vis-à-vis des religions, et en particulier des religions monothéistes. Avec la participation de conférenciers de haut niveau, plusieurs thématiques seront approfondies, telles que le combat pour Dieu dans l'islam chiite, la guerre après la chute du mur, violence et sacrifice, ou encore les relations intercommunautaires en Égypte après la révolution de 2011.
Pour les chrétiens, il s'agit d'une tentative d'intimidation de la part des pouvoirs publics. En Inde, les autorités de l'État de l'Odisha, dirigées par le parti nationaliste hindou, ont ordonné la destruction d'une église et de 30 maisons de chrétiens situées dans un bidonville. Des familles entières n'ont plus de toit ni d'eau potable. En revanche, en Malaisie, la justice a ordonné la restitution à l'église catholique de 300 bibles confisquées par le département religieux islamique de l'État de Selangor en raison de l'emploi du mot Allah pour désigner Dieu. Ferrarissime, quatre évêques catholiques érythréens ont critiqué la situation qui prévaut dans leur pays dans une lettre publiée par l'opposition. Les évêques soulignent que des dizaines de milliers d'érythréens ont traversé les frontières très surveillées de leur pays pour se réfugier dans des pays voisins, fuyant la conscription et la dictature. L'Érythrée est considérée comme un des pays les plus restrictifs en matière de liberté d'expression et les évêques ont donc pris un risque énorme. Beaucoup de migrants qui se sont noyés au large de Lampedusa l'année dernière venaient de l'Érythrée. Selon l'ONU, au moins 3000 Érythréens fuient au Soudan et en Éthiopie tous les mois. Les évêques soulignent que ces jeunes n'auraient eu aucune raison d'émigrer s'ils vivaient dans un pays agréable. Résultat, l'unité familiale est fragmentée car ses membres sont dispersés dans le service national, l'armée, des centres de réhabilitation et des prisons. Des milliers de prisonniers politiques sont détenus sans jugement dans des camps dans le désert où la brutalité est de mise. Et puis sachez que le musée d'anthropologie de l'université de Padoue, dans la région italienne de Vénétie, a dévoilé le 10 juin dernier, en avant-première mondiale, la reconstitution en images 3D de saint Antoine. L'un des saints les plus vénérés dans le monde entier peut désormais compter sur une nouvelle représentation scientifique. Les grandes avancées de la science font parfois des miracles et peuvent aussi rendre hommage au mystère de la foi, souligne le site Aletheia. Ce projet a été rendu possible grâce au développement des nouvelles techniques scientifiques de reconstitution. Aujourd'hui, les scientifiques scientifiques peuvent, à partir d'un simple crâne, reconstituer avec précision et objectivité le visage de nos ancêtres. Ce saint est certes représenté sur des milliers d'images et d'icônes, mais les fidèles peuvent aujourd'hui connaître son vrai visage. Le visage en 3D de saint Antoine sera exposé jusqu'au 22 juin près de la basilique de Padoue. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, bonne fin de semaine à tous.